L'atelier des médias, Julien Lebotte.
C'est à Madagascar cette semaine que l'atelier des médias vous emmène. Et c'est à Tana, comme vous avez pu l'entendre sur l'antenne, que le 16e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se réunit en cette fin de semaine. Alors nous, à l'atelier des médias, on est venu quelques jours plus tôt en amont du sommet et on s'est installé sur le village de la francophonie qui se trouve à peu près à mi-chemin sur la route qui relie l'aéroport de Tana au centre-ville historique. Et c'est presque devenu une tradition pour l'atelier des médias. Quand on délocalise l'antenne, on ne le fait pas seul dans notre coin. Nous sommes donc venu cette année avec près de 50 mondoblogueurs en provenance de 16 pays pour organiser ce qu'on pourrait appeler un mondoblog camp. Autrement dit, une semaine de rencontres et d'échanges autour de la pratique du blogging et de l'usage des réseaux sociaux pour faire vibrer les internets en français avec des contenus, des histoires et des récits de qualité. Et c'est un temps fort, un moment où chacun peut partager ses combats, ses envies et où l'on envisage les prochaines étapes. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on a parlé du coût d'accès à internet au Niger, d'un projet d'incubateur média au Tchad ou encore de booktubing avec Aminata Thior, l'une des mondoblogueuses invitées ici. Et je vous le garantis, on a très envie de continuer d'accompagner toutes ces initiatives qui, partant d'en bas, sont capables de remuer ciel et terre pour faire bouger les choses ici-bas. D'ailleurs, ici à Tana, on en a bien sûr profité pour rencontrer quelques-uns des membres éminents de la communauté, des blogueurs malgaches, afin de bien sentir ce qui, ici, sur la grande île, se passe sur Internet, notamment du point de vue de l'accès à l'information et de l'innovation média. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de participer à une conversation ouverte, comme vous pouvez l'entendre, puisqu'elle est enregistrée en public au cœur du village de la francophonie, afin d'en savoir un peu plus sur la transformation des médias, l'accès à l'information, notamment pour la jeunesse malgache, l'usage du mobile et des réseaux sociaux. Bonjour Erzo.
Bonjour Julien.
Alors Erzo, aidez-moi de grâce à ne pas écorcher votre nom, je vous laisse parler.
Ok, donc moi je suis Erzo Rakotundamanan. Actuellement donc je gère une entité qui s'appelle Nelly Studio, donc on fait des films d'animation et des jeux vidéo, mais en tout cas aujourd'hui je suis ici parce que je suis aussi fait partie de la communauté des blogueurs à Madagascar.
Un ancien. Ça fait longtemps que vous êtes sur la toile.
Ça fait très vieux, ancien effectivement, mais ça fait longtemps effectivement qu'on est là. Donc on était à l'origine de certains projets, dont par exemple l'ONG AB à un certain moment. Bon, je vois quelques-unes des personnes les plus influentes ici.
Qui sont présentes donc dans le public. Et nous, ça fait à peu près un an et demi qu'on se connaît. On s'était vu l'année dernière chez Abaca, qui est un incubateur, un des premiers incubateurs qui d'ailleurs est né ici dans la région. Mm-hmm. C'était dans le cadre d'un hackathon Afrique Innovation que j'animais d'ailleurs pour CFI et Code for Africa.
Effectivement.
Bon, et vous étiez présent comme mentor. Quels souvenirs vous en avez gardé des gens que vous avez rencontrés, l'énergie?
En fait, c'était une expérience humaine très enrichissante, même en étant un mentor, parce que je voyais beaucoup de jeunes qui voulaient s'investir, qui voulaient trouver de nouveaux business models dans tout ce qui est diffusion de l'information. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on se dit qu'il y a quand même une opportunité dans ce sens-là à Madagascar. Il y a des gens qui cherchent à faire des projets très intéressants, innovants aussi dans ce domaine-là.
Alors Erzo, vous avez un parcours intéressant, comme vous le disiez, puisque vous êtes une sorte d'homme orchestre en fait en matière de numérique. Et vous avez notamment travaillé pour Newsmada, qui fait partie d'un groupe de presse Ultima Media. Et vous êtes une sorte d'observateur averti du numérique à Madagascar. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui vous êtes plutôt dans un studio, vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur la façon dont les médias à Madagascar sont en train de se transformer? On sait que la presse papier est encore très présente. Quand on prend la route pour venir ici, on voit tout le public qui se rassemble pour faire une sorte de revue de presse sur le papier. Quid de la transformation de ces médias traditionnels vers le numérique, Erzo?
Effectivement, en fait, le média traditionnel est toujours très présent. D'ailleurs, on voit un foisonnement de nouveaux titres, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse, la radio, les télés aussi. Par contre, si on s'intéresse, disons, à un public jeune, le mode de consommation est en train de changer avec l'arrivée du digital.
Donc, est-ce que ça veut dire que la presse papier, notamment ces groupes de presse traditionnels, sont eux aussi en train d'essayer de courir après ce public qui ne s'informe plus de la même manière, ou est-ce qu'on assiste finalement à une séparation entre de nouveaux acteurs et des acteurs traditionnels qui ont du mal à se renouveler, Erzo?
À mon avis, la presse traditionnelle ne peut pas ignorer la partie digitale, donc ils sont en train de déployer différentes solutions dans ce sens-là. Après, c'est vrai que la plupart des gens, on va dire, du public qui nous intéresse, la partie des jeunes, je ne pense pas forcément qu'ils soient en train d'aller dans les kiosques et aller lire la presse traditionnelle, mais ils consomment plutôt à travers soit des news qu'ils partagent sur Internet, dans des blogs, sur Facebook, principalement ici à Madagascar. Donc, quelque part, il faut aussi que la média traditionnelle suive un peu le rythme et rendre les contenus qu'ils sont en train de produire disponibles sur ces plateformes-là.
Alors justement, puisqu'on parle de nouvelles pratiques journalistiques, de transformation des médias, vous savez qu'il y a plein de modes en fait partout dans le monde dans le fait de proposer de nouveaux formats pour tenter de courir après ces audiences. Quid des médias malgaches? Est-ce que par exemple le Facebook Live, là vous êtes en direct sur Facebook Live, est-ce que le Facebook Live est désormais utilisé par les médias? Est-ce que le fact-checking, comme on dit, c'est-à-dire cette espèce de vérification méthodique des faits lors d'un débat, est en train d'entrer dans les mœurs des rédactions ici, Erzo?
Écoutez, la partie Facebook Live, je pense que j'ai vu encore très peu d'événements qui sont couverts, que ce soit en Facebook Live, que ce soit sur du YouTube et autres. Peut-être parce que, quelque part, le public cible, en tout cas, ne se permet pas non plus de consommer beaucoup de data parce que le coût d'accès à l'Internet est encore assez cher pour la plupart des gens. Moi-même, même si je suis connecté en permanence, je vais rarement regarder des Facebook Live parce que je n'ai pas forcément, on va dire, envie de passer beaucoup de temps là-dessus, de consommer beaucoup de data là-dessus.
Quid de l'usage donc de la vidéo? Vous êtes en train de nous dire que finalement, là où par exemple en Europe on assiste à des rédactions qui misent notamment sur la vidéo et ces formats-là en fait pour rattraper ce public, ici ça reste très très compliqué d'avoir ce genre de parti pris, Erzo.
En fait, il y a beaucoup, on va dire, les initiés produisent déjà du contenu pour mettre sur de la vidéo, hein, principalement parce qu'il y a effectivement le public qui est ici, mais quelque part, nous, que ce soit en tant que médias ou en tant que blogueurs, on sait aussi qu'il y a quand même un lectorat ou des gens qui nous suivent depuis l'extérieur, on se dit qu'eux, ils n'auront pas ce problème-là. Donc on peut se dire, ok, par exemple, si on a cet événement-là, il y a quelqu'un qui va faire du Facebook Live, donc il va peut-être consommer son data, mais c'est par passion qu'il le fait. C'est pas tellement parce qu'on a prévu de faire cette partie-là. Parce que quelque part aussi, le challenge aussi, je pense, hein, c'est qu'une fois que tu as fait la partie Facebook Live, après, on aura l'impression de resservir quelque chose, de réchauffer quand on va y réécrire après. Donc c'est peut-être aussi un des challenges qu'il faut voir.
Et l'un des derniers challenges, comme vous dites, défi en fait pour ces rédactions, c'est évidemment aussi les investissements à réaliser. Mmh. Est-ce que vous avez la sensation que les actionnaires traditionnels de la presse et de ces groupes médias ont bien compris ce qui était en train de se jouer? On sait qu'en Europe, aux États-Unis, ça reste très compliqué. Maintenant, il y a peut-être un basculement ces dernières années. Quid de la situation à Madagascar, Erzo?
Sans forcément parler au nom des propriétaires de médias, mais je pense qu'ils sont quand même, ils sont déjà très, très conscients de cela. Peut-être qu'ils sont encore en train de se chercher en termes de business model, comment est-ce que ça va fonctionner. En tout cas, la volonté est là. On voit de plus en plus de médias qui couvrent des événements presque en temps réel, qui postent des photos ou bien qui relaient des informations, quitte à puiser des informations de la part des réseaux sociaux pour relayer après. Donc la volonté est déjà là. Après, on se cherche encore en termes de modèle économique.
Et pourtant, sur le fond, on le voit, la toile malgache, on a cruellement besoin d'un travail professionnel, puisqu'on le sait, il y a toujours un problème autour de la circulation de rumeurs qui est allègrement entretenue justement par un usage, je dirais, non éclairé des réseaux sociaux. Erzo.
Effectivement, mais paradoxalement, en fait, les réseaux sociaux, ça peut être une solution, tout comme ça peut être le problème. Parce que là, ne serait-ce que même pour cet événement-là, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été alimentées, qui ont pris une ampleur vraiment
importante. Donc là, vous faites écho à l'organisation du sommet en fait, de la francophonie à Madagascar.
Non, on n'est pas forcément, disons que les gens qui communiquent ici ne soient pas forcément conscients que quelque part, il faut aussi tenir compte de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, avoir une position officielle en disant, voilà, en gros, ne serait-ce que l'histoire de est-ce qu'on travaille ou on ne travaille pas vendredi, par exemple. Ça, c'est un exemple tout craché.
Donc là, vous faites le vendredi avant le sommet. Donc,
avant le sommet.
Est-ce que les gens vont au travail ou est-ce que toute la circulation est bloquée? Est-ce que c'est un jour chômé pour permettre...
En fait, Ça, c'est une question. C'est
vrai. D'ailleurs, on est arrivé ici avec nos amis Mondoblogueurs qui ont pu constater qu'il y avait beaucoup de mythes et de réalités, en fait, et qu'il y avait un énorme travail à faire sur le fait de savoir si oui ou non les écoles étaient ouvertes ou fermées, quid des investissements, etc. etc. Et donc là, est-ce que vous avez la sensation que la communauté journalistique à Madagascar a réussi à contribuer un peu à calmer un petit peu et à apaiser la circulation des rumeurs, ou est-ce que ça a été... Oui, ça reste très compliqué, Erzo.
De mon point de vue, hein, là je parle au nom personnel, je pense que il n'y a pas forcément eu une communication très claire là-dessus. J'ai l'impression qu'on a été un peu rattrapé par la situation, puis on se dit, ah oui, il y a beaucoup de rumeurs qui se passent actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rectifie le tir? J'ai l'impression qu'on arrive un peu en retard en essayant de rectifier le tir, mais le fait de essayer de rectifier le tir ne fait qu'en fait...
Plus ou moins alimenter...
Le buzz et la rumeur derrière. Donc l'effet, ça n'a pas forcément l'effet escompté.
Donc un énorme travail qui reste à faire en fait d'un point de vue journalisme professionnel. Et dans le même temps, je disais tout à l'heure, de nouveaux acteurs, de nouveaux entrants en fait sur la toile ici. Et je disais tout à l'heure qu'on s'était rencontré pendant un hackathon. Je sais d'ailleurs que vous êtes quelqu'un d'extrêmement curieux, Erzo. Alors profitons-en, nous avons avec nous Solofo Tina du projet Board.mg. Bonjour Solofo.
Bonjour.
Alors comment vous présentez aujourd'hui ? Vous êtes l'un des dirigeants et des cofondateurs de Board.mg ?
Oui, je suis le porteur du projet Board.mg. C'est un site de dénonciation des irrégularités, de l'abus et des injustices qui se passent dans la vie quotidienne des Malgaches.
Alors je vous propose, si on rétropédale un petit peu, quand on s'était rencontré il y a un an, vous étiez membre d'une équipe et d'un projet qui s'appelait News, un projet visant, si ma mémoire est bonne, à aborder des questions peu abordées dans les médias traditionnels justement et dans des formats plus accessibles. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il était question de longs formats adaptés pour la consultation sur mobile, avec des podcasts qui pouvaient être diffusés dans des taxis. Est-ce que c'est un bon résumé ? Et aujourd'hui, on en est où ?
Dernièrement, j'ai compté aussi un jour pendant le hackathon où tu étais toi-même aussi. News, c'était un projet de média à but social pour les jeunes citoyens notamment, qui visait à fournir de l'information de qualité sur un grand problématique de société. Nous avons comme ambition de produire des web documentaires. Ce sera des documentaires donc relayés sur Internet, mais entre autres pour mieux élargir notre sphère d'influence, nous avons décidé aussi de produire en même temps des podcasts qui sera diffusé dans les transports en commun, les fameux taxis B, parce que c'est connu à Madagascar, dans les 1 heure, 2 heures de temps, c'est sur les taxis B, le matin, le soir.
Oui, en gros, on a affaire à une sorte de public captif, on en profite finalement pour partager ces informations. Donc ça, c'était News, et je pense qu'il est important de mentionner à l'antenne que News, c'est N-I-O-U-Z. Pourquoi
oui,
News comme ça ?
Oui, News, N-I-O-Z, c'est le petit détail, c'est le petit détail de vouloir être différent. Fournir aussi une image de regard neuf qu'on voulait véhiculer.
Et alors les dates de lancement de News, c'est
Normalement, c'est prévu début janvier, j'espère.
Et Board.mg, donc Solofo, c'est une extension de ce projet ou c'est un autre projet
Entre autres, le temps de concevoir News, nous avons eu une envie pressante de sortir Board.mg. C'est une plateforme pour dénoncer, témoigner, donner une alerte sur les cas d'insécurité, de corruption, de violence envers les femmes et les enfants. De questions concernant aussi la circulation, les ressources énergétiques, notamment ça fait de l'eau quotidienne des Malgaches, le délestage.
Je suis frappé que vous disiez ça parce que l'année dernière, quand on s'est rencontrés, l'un des aspects extrêmement forts de tous ces jeunes qui étaient venus participer à ce hackathon, donc un marathon créatif, finalement tous avaient envie de dire les médias traditionnels ne parlent pas de ces problèmes quotidiens, ordinaires, nécessaires qui traversent l'ensemble de la société malgache. Donc vous, finalement, votre combat, c'est de dire les médias ne parlent pas de ce qu'on fait, donc on va créer le nôtre, c'est ça ?
Oui, mais en même temps aussi, c'est une initiative purement citoyenne. C'est notre part d'engagement, d'engagement volontaire par rapport à la société dans laquelle on vit.
Est-ce que ça veut dire que vous faites ça avec une activité à côté ? Board.mg, c'est un projet comme une ONG non-for-profit, c'est-à-dire sans but lucratif, ou est-ce que vous avez un modèle économique en tête derrière pour en faire peut-être l'un des médias de demain à Madagascar, Solofo ?
Avec Board.mg, c'est purement pour l'engagement pur et simple, s'il n'y a pas de modèle économique derrière.
Est-ce que pour l'instant, vous avez une communauté de contributeurs ou on reste sur un projet qui est en cours de lancement ?
Oui, récemment, nous avons été contactés par Transparency International, qui est un organisme assez sérieux dans la lutte contre la corruption.
La corruption, oui, absolument.
Oui. Et nous venons de participer à un atelier sur l'attribution des marchés publics pour ressortir des cas de graves ou avérés de corruption.
Oui, sachant que l'un des enjeux journalistiques actuels, c'est de s'approprier toutes ces données, de réussir à exiger plus de redevabilité en s'appuyant justement sur ce genre d'approche. Il y a aussi sur Board, si je ne me trompe pas, un jeu un petit peu sur les formats autour de la BD, de la titrologie. En un certain sens, j'ai l'impression que vous ne transformez pas uniquement la façon dont vous informez en changeant les sujets, en cherchant à parler d'autres sujets, vous inventez une nouvelle forme.
Oui, exactement. Nous voulons que ce soit un portail participatif, un portail qu'on veut consulter au quotidien, qui fait partie de la vie quotidienne. C'est vrai qu'en ce moment, on manque encore de visibilité. On a à peine commencé, ça fait tout juste un mois. Mais notre ambition, c'est de fournir un accès plus large à ces informations et d'inciter les citoyens eux-mêmes à dénoncer un cas, parce que quand les citoyens dénoncent un cas, c'est toute la communauté qui en profite, et de ce fait aussi on peut même alerter l'autorité publique ou l'autorité compétente pour une action plus concrète vis-à-vis de ces faits, de ces grands fléaux qui rongent notre société.
Là on s'approche en fait d'une nouvelle grammaire souvent journalistique où des projets hyper ciblés sur des communautés et des problèmes est en mesure d'essayer de participer non seulement à la dénonciation d'un problème mais aussi peut-être à sa résolution, ne serait-ce qu'en identifiant les problèmes. C'est exactement ça, Solofo, non?
Oui, exactement, mais en même temps aussi il y a une certaine limite. Quand on dit dénonciation, ça peut être beaucoup de personnes pensent que ça pourrait être un endroit de délation, mais notre but c'est de sortir une statistique, donc une tendance sur des cas récurrents. Comme ça, on ne va pas s'intéresser sur un cas précis de dénonciation ou d'une personne en particulier.
Dernière question pour Board et pour News. En termes d'équipe, est-ce que vous avez, quand on s'est rencontrés, vous étiez quand même beaucoup de développeurs et peu de personnes en prise avec l'éditorial. Aujourd'hui, vous en êtes où, Solofo?
On a gardé la même équipe. C'est un peu une équipe de geeks, de vrais geeks. Nous avons juste pu avoir une équipe éditoriale, mais c'est pas. On dit que c'est pas encore très abouti, mais nous sommes en cours de chemin pour être plus professionnels au niveau de cet aspect journalistique et éditorial.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes à Tana, au cœur du village de la francophonie. On enregistre une émission au public et on parle d'accès à l'information pour la jeunesse malgache. Et justement, à ma gauche, nous avons Setra Rakoto Malala, si je me trompe pas. Bonjour.
C'est ça, oui, c'est ça.
Alors vous êtes fondateur du blog de Madagascar qui s'est lancé dans une forme de tout autre pari. On est plus près de quelque chose qui pourrait être une sorte de BuzzFeed local, puisque vous travaillez sur des contenus éditorialisés qui sont vraiment faits et plutôt bien faits pour être portés à la connaissance des internautes via les réseaux sociaux.
Oui, c'est exactement ça. Donc, au début, j'ai lancé le blog un peu par hasard. Après, j'ai vu que le premier billet était assez partagé.
Après, c'était quoi l'histoire d'ailleurs de ce premier billet de blog?
Ce qui est bête, c'est qu'il n'y avait même pas de texte, c'était un titre et 14 photos.
D'accord, donc très visuel.
Très visuel, c'est ça. Donc le blog de Madagascar, c'est très axé sur le visuel, parce que finalement, on peut faire un texte très long. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est les photos, les vidéos, et ça parle tout seul. Après, on met quand même des commentaires, enfin je mets quand même des commentaires comme ça. Mais pour moi, c'est vraiment le visuel qui est important, donc l'image et les vidéos. Le problème, parce que Irzo a parlé des médias traditionnels, mais en fait les médias traditionnels ils ont déjà opéré une certaine transformation numérique, parce qu'ils ont ils ont parfois des articles qui sont publiés à la fois sur la version papier et la version numérique. Mais le problème, c'est que des fois ils travaillent pas vraiment en temps réel, parce qu'il faut attendre l'impression avant de mettre ça en ligne, de un. De deux, parce qu'ils ont la contrainte que par exemple un papier va être publié sur un journal imprimé, et donc en fait ils peuvent pas mettre du multimédia. Et en fait moi j'ai découvert via le blog de Madagascar, justement via ce projet, que en fait ça c'est un besoin auquel il faut aussi répondre.
Et ce projet est un projet qui vous fait vivre, ou c'est un projet à côté de votre travail?
Non, pour le moment c'est à côté, mais là ça fait un an et je commence à explorer les différentes alternatives pour la monétisation.
Et alors en termes de production de contenu, comme on dit, enfin en tout cas d'articles, de photos et de vidéos, quel est le rythme de publication et quelles sont les interactions que vous avez avec le public? Est-ce que vous sentez qu'il y a une attente très forte justement sur les affaires de corruption et de vie quotidienne, ou au contraire sur d'autres dimensions, etc.?
Pour les interactions avec le public, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires. J'ai un petit problème de modération. Mais en gros, il y a trop de commentaires. Des fois, il y a plus de commentaires que de clics sur le lien, par exemple. Et en fait, ça, c'est très important, parce qu'en même temps, par exemple, la page Facebook est devenue un espace de débat. Et ce n'est pas forcément un débat politique. Ça peut être un débat sur un endroit, sur un plat, comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est important, je pense.
Setra, je vous propose de continuer cette conversation ici à Tana pour parler de l'accès à l'information pour les internautes malgaches dans un instant. À tout de suite après le flash.
Écho d'ici, atelier des médias, Julien Lebotte.
Atelier des médias, deuxième partie. Nous sommes toujours au village de la francophonie, en marge du 16e sommet de la francophonie, qui se tient à Madagascar. Et j'ai invité 5 acteurs du numérique et de l'information à venir nous parler de la façon dont les Malgaches s'informent et de la place du numérique à Madagascar. D'ailleurs, j'ai à ma gauche Setra Rakato Malala, fondateur du blog de Madagascar. Alors Setra, dites-nous tout. Le 23 août dernier, vous avez publié un article évoquant, je cite, une jeunesse malgache sauvée par Internet. De quoi s'agit-il? De ces jeunes diplômés qui produisent à tout va des contenus pour le web francophone. Alors, c'est donc vrai, Setra, il y a bien cette économie du numérique à Madagascar?
Oui, tout à fait. Moi, je connais beaucoup de personnes justement qui vivent soit de production de contenu, il n'y a pas que ça, il y a aussi de la modération, il y a aussi du développement informatique. Il faut parler de ça parce qu'on ne va pas dire qu'il n'y a qu'une armée de rédacteurs ou de modérateurs à Madagascar. Il y a aussi une armée de développeurs, de bons développeurs même. Mais dans tous les cas, donc, c'est de l'outsourcing. Et moi, je trouve que...
Donc de l'externalisation.
Oui, c'est ça. Et moi, je trouve que, en fait, ça sauve pas mal de monde. Et tout ça, en fait, c'est grâce au numérique parce qu'on peut travailler à distance.
Donc un public finalement pas encore si grand que ça, mais par contre plutôt du jeune public présent sur les réseaux sociaux. Donc peut-être c'est la raison notamment du succès de votre blog puisqu'il est très 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 visuel. Vous avez également sur le blog de Madagascar, Setra, une section qui s'appelle Wake Up. Et là on a affaire finalement à une sorte de coup de projecteur sur tout ce qui est bouillonnement de la société civile avec des histoires de codeurs, des incubateurs, des initiatives finalement qui sont aussi parfois solidaires. Pour vous c'était important sur le blog de Madagascar de jeter une lumière sur ce genre d'initiatives, Setra?
Et en fait, avant, la catégorie s'appelait activisme. Et après, bon, j'ai dit, allez, on va mettre Wake Up d'abord et après, on verra, on mettra quoi.
Donc, Wake Up debout, réveillez-vous.
Oui.
Et vous êtes d'ailleurs fait l'écho, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'une initiative de Wake Up Mada. On va en parler juste après, devant la présidence de la République. Racontez-nous, c'était quoi l'enjeu de cette mobilisation qui ressemble étrangement à toutes ces mobilisations qu'on a partout dans le monde. J'ai envie de dire justement câblé numérique, c'était une flash mob. Que s'est-il passé, Setra?
Pour être honnête, j'étais pas sur place, donc je pense que... Il y a Keta qui serait mieux placé pour en parler, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'après, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur place, mais en revanche, après, quand ils ont pu faire leur live, justement, ils ont fait un live, je pense.
Et justement, on va pouvoir rebondir sur vous, Ké. Bonjour, Ké.
Bonjour, Julien.
Alors, vous êtes ici pour nous parler des collectifs, deux collectifs qui sont d'ailleurs très actifs et qui utilisent les réseaux sociaux pour ou informer ou mobiliser. Je pense d'abord à Wake Up Mada et Liberty 32. Peut-être on peut commencer par Wake Up Mada et cette initiative que vous avez portée, dont se faisait rapidement l'écho le blog de Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé donc devant la présidence de la République?
Donc, pour commencer d'abord, Wake Up Madagascar, c'est un mouvement de citoyens qui est né en 2013. Et qui ambitionne de réveiller les citoyens, tout simplement, hein, parce qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses à Madagascar, alors que les citoyens restent endormis. Et c'est pour ça qu'on dit « wake up, réveillez-vous ». Donc ce flash mob qu'on avait fait samedi dernier, c'était pour attirer l'attention des invités, justement, de ce sommet de la francophonie sur les réalités malgaches, parce que nous avons l'impression que les dirigeants malgaches ont cherché à cacher ces réalités-là, le quotidien de la population, aux invités, et nous on voulait juste se faire les porte-parole, si vous voulez, des simples citoyens, pour établir une liste de ces réalités, le délestage quotidien, l'eau boueuse, la corruption, etc., pour que l'attention du monde soit focalisée sur ces problèmes plus que sur le sommet de la francophonie lui-même.
Et sur ces questions, est-ce que vous avez la sensation que les médias eux-mêmes ont fait leur travail ou justement via les réseaux sociaux, finalement, vous vous auto-organisez pour dire il faut qu'on parle de ça?
En fait, ce qu'on fait à chaque fois qu'on a un événement comme ça, on invite quand même les médias traditionnels à couvrir l'événement, mais on a aussi nos propres relais sur les médias sociaux. Donc on fait les deux parce qu'on sait bien que le public a le choix aujourd'hui. Donc, on essaie d'exploiter tous les canaux possibles pour relayer nos messages et pour faire le plus d'impact possible.
En me promenant sur la page Facebook de Wake Up Mada, j'ai presque l'impression qu'on avait affaire finalement à une sorte de, d'observatoire de la vigilance démocratique, quelque chose un petit peu comme ça.
C'est un peu un mélange de tout ça, en fait, parce que, comme je vous ai dit, l'ambition de Wake Up, c'est vraiment de toucher au fait de société à Madagascar et de dire aux gens, voilà ce qu'on vit au quotidien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là à supporter tout ça et jusqu'à quand? Ou bien est-ce qu'on essaie de faire quelque chose? Ce qu'on véhicule, c'est vraiment un esprit de résistance civile, non violente. Ça, je tiens à le préciser, parce que nous, on met en scène des situations comme ces flash mobs-là, qui ne sont pas toujours comprises par la population elle-même, hein, parce qu'on n'a pas cette culture-là à Madagascar, ni cette habitude. Vous aviez dit tout à l'heure que ça ressemblait à des manifestations qu'on voit un peu partout dans le monde, mais chez nous, c'est nouveau. Et ça laisse les gens pantois. des fois, ils ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe ici, quel est le message, etc. Donc, c'est une éducation sur le long terme. Et ça, je pense que c'est un bon rôle pour les réseaux sociaux, cet aspect éducatif également.
Oui, c'est marrant que vous disiez ça, parce que tout à l'heure, on parlait finalement de facilitation de la circulation de la rumeur, cette espèce d'ambiguïté native des réseaux sociaux. Et vous, vous dites, bah non, avec Wake Up Madagascar, on va essayer de rétropédaler et d'inverser la vapeur en proposant des actions finalement positives.
C'est tout à fait ça. Et puis, on essaie aussi de critiquer, c'est ce qu'on fait, hein, mais de critiquer de façon constructive et en proposant des alternatives. Parce que il y a plein de pages sur Facebook, si vous explorez un peu les pages locales, qui ne font que critiquer, et ce sont des déverseurs, si vous voulez, de la frustration publique. Ok, ça marche pour un temps, mais après, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble? C'est l'ambition de Wake Up Madagascar. Wake Up, si vous voulez, c'est un concept, c'est pas une organisation formelle, hein, comme je dis, c'est un mouvement, et tout le monde peut s'approprier ce concept de Wake Up. Il faut juste se réveiller, faire quelque chose. Donc il y a un problème.
Et participer à vos actions.
Justement, j'allais y venir, parce que c'est ça le problème. Si vous suivez notre page, vous verrez qu'on a, je sais pas, près de 30 000 followers.
Oui, j'ai regardé.
Mais quand on appelle les gens à venir sur le terrain, quand on programme une action, ben, c'est, je l'ai dit, hein, il y avait quoi, une vingtaine de personnes, et à chaque fois, c'est la même chose. Le challenge, c'est vraiment d'amener nos followers à venir sur le terrain. Et ça se fait pas en un an ni en deux ans, je pense. Hein. Ça se fait progressivement, justement, par ce phénomène éducatif-là. On essaie de montrer aux gens qu'il y a une alternative possible, que d'aller dans les rues, ça ne veut pas toujours dire brûler des magasins, etc. Il y a des formes d'expression pacifique, non violente.
Et vous parliez donc de ces 30 000 abonnés à votre page Facebook. Qui sont et quelle est la pyramide des âges de ces 20 personnes qui se sont mobilisées? Et est-ce que vous avez la sensation que Wake Up Mada arrive à toucher le public dont on essaie de parler aujourd'hui, savoir le plus jeune public?
Donc le profil est mélangé. Hein. Il y a des personnes de plus de 50 ans, il y a des enseignants, des jeunes, des moins jeunes, etc. Donc on est vraiment satisfait par cette mixité-là, je veux dire, parce que les causes qu'on défend, le message qu'on véhicule touche tout le monde. C'est ça, je veux dire, le grand avantage de Wake Up Madagascar, c'est qu'on se focalise pas vraiment sur un thème précis, on touche à tout. Et les gens se sentent touchés par cette diversité-là, ils ont un désir de venir. Mais je dirais, là où le bât blesse, c'est qu'il y a toujours cette peur de la répression quelque part, et c'est ce qui empêche les gens de venir sur le terrain. Donc ça, il faut qu'on apprenne à le surmonter. Et après, en matière d'impact, il est très difficile de mesurer l'impact réel de nos actions, évidemment, mais ça viendra. Mais en tout cas, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment d'impacter, si vous voulez, le mental des gens. C'est vraiment de l'empowerment.
De la mise en capacité du public pour s'approprier des combats.
Oui, parce que le principal message qu'on veut transmettre au public, c'est que le pouvoir nous appartient à chacun d'entre nous. Et si on se met ensemble, peut-être qu'on arrivera à quelque chose.
Et dans ce travail-là, je crois d'ailleurs que c'est quasiment un engagement personnel aussi, puisque vous intervenez sur des radios et dans le même temps, à vous lire, à regarder ce que vous faites. J'ai l'impression que ce souci d'amélioration de la participation citoyenne au sens large, c'est-à-dire pas seulement de la contestation, mais de la contribution qu'on peut apporter à l'espace public, c'est là où on est très numérique, ça passe justement par des outils, des pages Facebook. Est-ce que l'un des enjeux à l'heure actuelle, c'est pas une sorte d'éducation, non pas aux médias, mais aux nouveaux médias ici, pour réussir à transformer la situation?
Tout à fait. C'est comme vous dites, l'éducation à l'usage des nouveaux médias, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau chez nous. L'accès à Internet est encore très faible à Madagascar. Et si les jeunes utilisent aujourd'hui les téléphones portables pour se connecter, c'est surtout pour chatter entre eux ou faire des jeux. C'est pas encore pour s'exprimer ou revendiquer des choses en tant que citoyen. Et c'est là, justement, où on essaie aux gens de dire aux gens, on peut utiliser ces nouveaux médias-là. Et voilà comment les utiliser à telle fin. On peut les utiliser à des fins constructives, encore une fois. Il y a le loisir, l'amusement, c'est bien pour un temps. Mais après, il faut chercher à bâtir quelque chose sur ces nouveaux canaux de communication.
Alors, autre exemple de votre engagement, c'est donc la communauté sur Facebook qui s'appelle Liberty32. Je ne sais pas si vous le dites en anglais. C'est une communauté qui est un peu plus restreinte, puisqu'on n'a pas 30 000, mais je crois près de 2 ou 3 000 personnes. Et j'ai l'impression que ce projet-là, c'est encore une fois une sorte d'orchestration d'un coup d'État citoyen. C'est un peu ça?
J'adore votre expression.
Alors, c'est pas la mienne, c'est celle d'un livre qui a été publié récemment. On en a parlé à l'atelier.
Liberty 32, c'est une association qui a été fondée en 2010. et qui ambitionne de faire de l'éducation citoyenne par des malgaches, pour des malgaches donc. Et on valorise aussi l'engagement citoyen, plus particulièrement le bénévolat, c'est-à-dire que toutes nos actions sont gratuites, on ne demande rien en contrepartie. Et Liberty 32 a une émission radio hebdomadaire sur la radio Don Bosco qui s'appelle Soumien Pit et dans laquelle on parle des faits de société et on essaie aussi d'éduquer les gens, par exemple, sur la Constitution. On essaie de décortiquer chaque article de la Constitution en disant aux gens, voilà ce que ça signifie, ne vous laissez pas berner par les politiciens, voilà ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vraiment un concept novateur, justement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions sur les radios, hein, mais si vous écoutez, les thèmes sont certes diversifiés, mais on parle rarement de ces sujets-là, de la loi, de la citoyenneté, tout simplement, alors que c'est super important.
Et entre parenthèses, d'ailleurs, sur cette page Facebook de Liberty 32, le descriptif, l'à-propos, est écrit en anglais. On est ici dans le pavillon de l'Organisation internationale de la francophonie, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc la langue du numérique, la langue du coup d'État citoyen, c'est l'anglais qui est...
Pas forcément l'anglais, hein. Il s'agit pour nous de nous ouvrir à l'international parce qu'on veut rallier le public international à notre cause. Madagascar est une île, hein, une grande île certes, mais une île quand même. Donc on ne veut pas rester isolé, on veut attirer le plus de support possible. Quand je dis support, c'est pas financier, attention, mais en matière d'idées, d'innovation, d'engagement également. Parce que ici à Madagascar, quand vous êtes citoyen, quand vous vous adressez aux dirigeants, ils ne vous écoutent pas. Mais si vous avez un soutien venant de l'international, là, ils prêtent un peu plus attention. Donc c'est important pour nous de nous diversifier comme ça. Ne le prenez pas mal, on utilise beaucoup de français aussi.
Je vous propose donc de continuer un petit peu plus loin. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ici donc à Tana, sur le village de la francophonie, où on enregistre un atelier des médias où l'on parle de l'accès à l'information, notamment pour les plus jeunes, et de la transformation dont aujourd'hui on peut utiliser notamment les réseaux sociaux via de l'éducation. Par exemple, aux nouveaux médias pour réussir un peu à changer la donne. J'avais lancé une invitation à Clash Info qui propose sur YouTube notamment une sorte de JT rappé à la fois en malgache et sous-titré en français. Ce dont on ne parle pas encore depuis tout à l'heure, mais qui est aussi important, c'est évidemment le fait de, à la fois peut-être de continuer à travailler, à diffuser et à réfléchir en français, en anglais comme vous le disiez aussi, mais en malgache. Okay.
Oui, le malgache. Quand on parle par exemple de Liberty 32, nous on fait toujours dans le trilingue. Toutes nos informations sont en anglais, en français, en malgache, justement pour essayer de toucher le maximum de public possible en privilégiant le malgache. Parce qu'on sait bien qu'à Madagascar, seule une petite partie de la population maîtrise les deux autres langues, c'est-à-dire le français et l'anglais. Mais la plupart des gens parlent encore le malgache. Et c'est tant mieux pour nous, d'ailleurs.
Alors justement, autre initiative intéressante et qui nous permet de continuer de scruter finalement le paysage, non pas médiatique, mais des internets et de l'accès à l'information. Je veux parler de zarateni.org et nous avons donc avec nous Mia Lissou, c'est ça, je ne fais pas d'erreur. Alors vous, votre site est une sorte de site de publication d'opinion, un blog avec de la contribution autour, je cite, de la politique et de la société magalaisie. Pourquoi avoir lancé ce blog? En quoi était-il nécessaire à vos yeux? Et qu'est-ce que ça permet de faire, de partager finalement avec les internautes?
Donc, j'ai commencé avec un blog qui s'appelle toujours « Mais elle s'en fout ». Et l'idée était de retrouver des personnes qui avaient cette volonté de partager des points de vue, des recherches, des lectures, etc. pour que ces personnes-là puissent partager leurs idées, partager leurs points de vue sur des faits politiques, des faits sociaux, culturels, etc.
Et quel est le profil de vos contributeurs d'une part et d'autre part le lectorat? Est-ce que vous avez la sensation que cette structuration d'une sorte de débat démocratique qui pourrait avoir lieu sur les internets se fait avec un public large ou c'est très très difficile de toucher ce public dont on parlait avec Cetra par exemple qui s'informe principalement sur les réseaux sociaux et puis qui aime les visuels pour ne pas dire parfois la vidéo?
C'est super difficile.
Et vous faites comment alors?
On fait avec beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté. Mais c'est très difficile de trouver justement la personne qui a envie vraiment de partager des idées et la personne qui a envie de faire un vrai contenu éditorial, faire des recherches, etc. Mais encore, c'est encore plus difficile de trouver les personnes qui veulent vraiment se concentrer sur ce genre de travail. Parce qu'on a une culture où on dit souvent que le malgache ne lit pas. Bon. Moi, j'aimerais croire que ça ne sera pas toujours vrai dans l'avenir, qu'il y a quand même un avenir pour les personnes qui lisent, pour les personnes qui font des recherches, etc. Et donc, l'idée, c'est de recréer ce monde, ce cercle, afin que les gens puissent quand même trouver une manière de s'informer autrement, de partager leurs idées autrement, et pas seulement de dire « Ok, moi, c'est juste les visuels, etc. » Parce que l'idée est aussi importante.
Et alors, quand on anime un blog comme ça, autour de la discussion démocratique, est-ce que vous avez la sensation de réussir à avoir un impact sur l'espace public ? Est-ce que vous avez la sensation d'être entendu, voire même parfois relayé par des acteurs, par exemple, comme le blog de Madagascar ? Est-ce qu'on arrive vraiment à créer cette espèce de circulation de l'information entre ces différents bassins d'audience, pour le dire comme ça ?
Pour l'instant, comme je disais, c'est vraiment difficile, parce que déjà, le contenu en soi est un peu plus intellectuel. Donc, les personnes ne sont pas vraiment... c'est un monde assez fermé, on va dire. Et on essaie de briser, en fait, cette barrière pour que les gens puissent vraiment avoir envie de partager des idées. Et c'est pour ça qu'on a des blogs alternatifs autour de Zaratine qui sont un peu plus ludiques et qui sont un peu plus accessibles à d'autres, afin qu'on ne soit pas vraiment quelque chose d'élitiste, etc.
Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, on parle de la nécessité de renouveler le débat et d'améliorer la qualité de l'accès à l'information. Et on se rend compte que finalement, c'est pour beaucoup d'entre vous des initiatives ou personnelles ou bénévoles.
Tout à fait. Oh. Moi, je ne gagne pas du tout d'argent dessus. J'ai une petite boîte de communication sur laquelle moi je travaille. Mais c'est vrai que peut-être que mes amis ici sur la table pourront dire leurs avis. Mais j'ai l'impression que ça part vraiment d'un engagement très personnel et très, très individuel pour l'instant. On fait le projet parce qu'on aime le faire et qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'il y a à exploiter, à creuser. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est les petits soldats qui le font un peu tout seul.
Parlons un petit peu de sujets qui fâchent. Je rappelle que nous sommes donc à Madagascar. Et je vais m'appuyer sur un article de l'Express de Madagascar qui écrivait ceci mardi dernier. Le sujet ne pouvait pas ne pas être abordé. Présent à la cérémonie d'ouverture des 45e assises de la presse francophone qui s'est tenue à Antsirabe, le président de la République s'est vu interpellé sur le code de la communication. Allez, qui a envie de se laisser tenter par une explication au sujet de l'adoption controversée de ce code qui pour les uns est liberticide, pour les autres porte un coup fatal au journalisme à Madagascar. Qui veut aider les auditeurs à comprendre ce qui s'est joué là-dessus? Kay?
Oui, je dirais que le qualificatif liberticide est tout à fait mérité pour ce code de la communication, hein, parce que ça tue tout simplement la liberté d'expression et en même temps ça assassine des journalistes. Donc nous on s'est mobilisés par exemple au sein de Wake Up Madagascar pour contrer ça depuis longtemps, hein, et on a essayé de mobiliser le public également sur le sujet parce que, encore une fois, la qualité de l'information à Madagascar n'est pas très bonne. Les gens ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit.
Et pourtant, l'information est accessible. Je me suis amusé à aller sur le site de l'Assemblée nationale. J'ai pu me procurer justement ce Exactement. Fameux code de la communication qui a été adopté, si je ne m'abuse, mi-juillet dernier. Et j'ai retrouvé ce fameux article 20 qui a fait couler beaucoup d'encre et qui stipule « Le journaliste s'abstient de porter toute atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique. » Et donc l'un des enjeux, c'est de dire de facto, ceci complique évidemment le travail d'enquête sur, par exemple, des détournements ou des affaires de corruption. C'est
oui,
ça,
ben, tout à fait. Ça va empêcher toutes les investigations qu'il faut faire sur le thème de la corruption. Il y a eu le trafic de bois de rose, etc. Tout ça, pour nous, ce sont des manœuvres dilatoires visant vraiment à limiter la liberté des journalistes et à limiter également le droit de tout citoyen à l'information, à une information véridique et recoupée. Parce que de l'information, il y en a certainement. L'information est disponible, mais est-ce qu'elle est claire pour le public ? Est-ce qu'elle est véridique ?
J'ai l'impression qu'il y a un autre aspect, et c'est là peut-être aussi où le bât blesse, c'est que finalement ce code de la communication, pour nos auditeurs, a été adopté suite à des consultations. Donc, en un certain sens, les blogueurs et les journalistes avaient été, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a raconté, je vois Kay qui hausse les sourcils, avaient été consultés pour réussir à rédiger un code de la communication adapté aux enjeux du numérique et de la façon dont aujourd'hui l'espace public fonctionne. Et finalement, c'est pas le texte qui a été adopté. Kay, vous voulez réagir?
C'est ça le problème. On fait des consultations pour la forme à Madagascar, pour dire aux bailleurs, OK, on a suivi les procédures, etc. Mais après, on adopte le texte qu'on veut. Par on, je veux dire les dirigeants, ceux qui ont des intérêts à manipuler ces choses-là. Donc, où est l'intérêt du citoyen là-dedans? Est-ce qu'on protège l'intérêt du grand public ou bien est-ce qu'on sort des textes pour servir des velléités personnelles au niveau des dirigeants? C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on veut plus de consultations, de vraies consultations, qu'on implique vraiment les citoyens. Et dans cette optique-là, c'est là où on peut utiliser les réseaux sociaux, parce que ça peut être de bons moyens de consultation à bas prix, si on sait bien s'en servir. Et là, je pense qu'on peut fédérer les connaissances, on peut regrouper les développeurs, etc., les activistes, toutes les personnes qui ont intérêt à protéger l'intérêt public, justement, et à ce que ça serve la démocratie participative dans son vrai sens.
Et ce qui est amusant, c'est que c'est un blogueur d'ailleurs qui est ici présent dans la salle qui me disait ça. Finalement, au moment où ce code a été adopté, ce sont les blogueurs qui tout de suite se sont mobilisés en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. C'est pas du tout le code sur lequel on avait été consulté. » Est-ce que la réinvention de l'accès à l'information et la réinvention des médias au sens large ne passe pas par une meilleure collaboration finalement entre ONG, blogueurs et médias sur la base de projets précis, c'est-à-dire d'affaires de corruption, de pillage de ressources naturelles, plutôt que d'essayer de réinventer la roue ? Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement réinventer des configurations de collaboration à l'intérieur de l'espace public pour réussir précisément à la fois à avoir une meilleure info et peut-être à se rendre plus accessible par rapport au centre d'intérêt des personnes ? Mm-hmm. Ok, vous avez encore envie de réagir.
Tout à fait, c'est ce que je disais en disant fédérer les connaissances. Parce que on a tous des projets super intéressants. On essaie de se mobiliser dans notre coin et de mobiliser le public. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'on se met pas ensemble pour construire quelque chose qui pourrait servir de contre-pouvoir à tout ce qui se passe? Parce que voilà de ce dont il s'agit. Hein. Il y a une certaine forme d'oppression ambiante contre laquelle il faut qu'on s'insurge. Et tous ces projets-là, que ce soit Board.mg, que ce soit le blog de Madagascar, Zaraten, ou bien toutes les autres initiatives, tendent vers cela, vers un contre-pouvoir pour contrecarrer ces velléités politiciennes et dire voilà ce que nous, citoyens, on veut. Après, comment relayer ce message vers les cibles principales que sont les dirigeants? Comment faire de l'impact? Comment faire en sorte que les millions de malgaches qui sont connectés, parce que ça va aller en croissant, hein, apportent vraiment quelque chose de positif et de concret dans ce changement-là? Donc il faut qu'on saute sur cette innovation médiatique, qu'on sache s'en servir, et ensemble de préférence, pour éviter de s'éparpiller et de se fatiguer sur des projets qu'on ne sait pas si ça va durer longtemps ou... En tout cas, l'engagement est là. Hein. De notre côté, il s'agit d'une passion pour nous. Mais après, est-ce qu'on va durer éternellement? Je ne sais pas où est la relève, quelque part.
Qu'est-ce que ces réflexions suscitent en vous, notamment sur le faux?
Moi, personnellement, quand j'ai participé à la télé organisée par Transparency International avec les organisations des sociétés civiles, une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que la plupart des participants, ce sont des personnes âgées. Pourtant, sous les nouveaux médias, ce sont plutôt les plus jeunes. Hein. Donc, pour moi, il est temps de vraiment fédérer ces actes de courage individuel autour d'un projet plus
fédérateur.
Plus concret, plus fédérateur aussi, justement. Comme ça, les efforts sont rassemblés pour une action plus concrète et vraiment palpable. Parce que même le fait qu'on commence dans ce sens-là, parce que les citoyens eux-mêmes, ils vont se réveiller enfin, wake up, et voilà. Bon, je pense.
Erzo, je rappelle aux auditeurs que vous êtes venu en qualité d'observateur averti du web et d'ancien blogueur. Merci. Solo Fotina, vous faites partie de l'équipe de Board.mg, de News. Merci à vous et bonne chance dans les prochaines étapes pour vos projets.
Ok, merci.
Cetra, je rappelle que vous êtes venu ici pour nous parler du blog de Madagascar. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
Mirasu, je suis désolé, c'est pas facile pour moi. Ouais, je vais y arriver. En tout cas, merci d'être venu avec votre belle énergie. Vous êtes la fondatrice donc du site zarateni.org. Merci.
Merci.
Et puis Ké, bah écoutez, on a bien entendu cet appel qui était lancé et on peut vous retrouver ou retrouver vos travaux notamment donc sur deux pages Facebook, Wake Up Mada et Liberty 32. Merci à vous.
Tout à fait, merci pour l'opportunité et suivez-nous sur Facebook.
Vous pourrez retrouver toutes les références de cette émission sur nos réseaux sociaux et sur atelier.rfi.fr. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Les mondoblogueurs d'abord qui sont ici devant moi dans la salle et pas seulement ceux qui sont ici d'ailleurs, mais bien toute la communauté des mondoblogueurs parce que c'est cette envie justement de nourrir la conversation en français sur les internets qui nous motive et nous pousse à continuer d'année en année cette aventure initiée il y a 6 ans. Les auditeurs curieux de savoir d'ailleurs ce qu'il s'est passé ici à TANAF peuvent aller faire un tour sur antananarivo2016.mondoblog.org. C'est le blog animé par les anciens, comme on les appelle, les anciens donc des mondoblogueurs sur la vie quotidienne au cœur du village de la francophonie. D'ailleurs, pour info et pour boucler la boucle, les mondoblogueurs se sont prêtés à un petit exercice radiophonique et journalistique en menant un entretien avec Michael Jean, secrétaire général de la francophonie. Nous leur disons donc bravo pour leur travail et leur appétit d'information, mais aussi de francophonie numérique et éclairée.
À mon tour, j'ai un rêve. Mon rêve, c'est que nous vivions libres ensemble. C'est que nous tous, nous puissions dire « vivre libre ensemble ». Et moi, j'adore cette façon de dire, cette façon de convoquer l'autre. cette façon de revenir au pouvoir des mots, cette façon de revenir au pouvoir des mots pour pouvoir résister ensemble, résister au nom de la liberté, résister et tout faire pour que la vie triomphe, vivre libre ensemble.
Nous l'avons donc diffusé sur notre Facebook Live. Merci de vos commentaires, de vos likes et de vos émojis en tout genre. Il nous faut bien évidemment remercier toutes les équipes de RFI. Et là, je ne peux malheureusement pas citer tout le monde, mais il y en a eu des coups de main qui ont été précieux, efficaces. Et merci encore une fois à l'Organisation internationale de la francophonie qui nous accueille ici, au cœur du village de la francophonie, et qui a soutenu cette formation Mondoblog, cette émission. Et je pense aussi également à Air Madagascar. Ne pas oublier toute l'équipe de l'atelier des médias, avec une mention spéciale pour Camille Deloche, qui cette année, comme moi d'ailleurs, vient de boucler une boucle avec cette formidable session malgache du blog camp des Mondoblogueurs. Et un immense remerciement à Manon Mella, d'ailleurs, qui termine là une aventure avec l'atelier des médias. Mais ce n'est que le début d'une belle et d'une nouvelle histoire. Nous lui souhaitons bon courage et nous lui disons à bientôt. Une dernière salve de remerciements sans modération adressée également à Mathias Virilli, qui a entamé de son côté sa carrière de journaliste pigiste ici à Tana. La semaine prochaine, on est de retour à Paris et au programme, nous allons parler d'OpenGov, donc de gouvernement ouvert, comme on ne dit pas en français, c'est-à-dire de participation citoyenne, de redevabilité. Bref, c'est le prolongement de ce qu'on vient de voir ici à Tana. Et on va continuer de parler d'innovation citoyenne, de nouvelles façons de gouverner à l'heure des données, des plateformes et du numérique. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Un petit rappel pour nos auditeurs, journalistes, développeurs et bidouilleurs en Afrique, vous avez jusqu'au 1er décembre pour proposer vos projets pour le fonds Innovate Africa que vous pouvez retrouver sur innovateafrica.fund. Il y aura entre 12 000 et 100 000 dollars pour les projets sélectionnés. N'hésitez pas, tenez-nous au courant, on vous suivra. Bref, bonne chance à tous. L'Atelier des médias vous remercie. Une émission préparée par Manon Mella, Mathias Virilli, Marie-Stéphanie Servos et Camille Deloche. À la réalisation Simon De Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
RFI.